La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission spéciale Indépendance. Nous revisitons chaque semaine un épisode de la décolonisation. Comment les Africaines et les Africains l'ont-ils vécu? Comment les grandes figures intellectuelles et politiques du continent se sont-elles battues? Et jusqu'où la France s'est-elle compromise pour maintenir son emprise coloniale? 60 ans après l'année magique, cette fameuse année 60 où 17 pays africains accèdent à la souveraineté nationale, je vous invite au bal des indépendances, au son de nos archives sonores et musicales.
Indépendance, tcha-tcha, aux oubliés.
Le Cameroun est libre et indépendant.
Vive la Fédération du Mali, vive la communauté des peuples libres.
Je proclame solennellement l'indépendance du Niger.
Mes chers compatriotes voltaïques, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta.
L'indépendance de la Côte d'Ivoire.
L'indépendance de la République gabonaise.
Indépendance, tcha-tcha, aux oubliés. Au Kinshasa, tcha-tcha, tout va guider.
C'est le bal des indépendances dans la marche du monde. Premier épisode, les indépendances au quotidien. Les unes après les autres, les anciennes colonies françaises proclament leurs indépendances et fêtent leur toute nouvelle liberté. Mais que signifie alors être indépendant pour un Congolais, un Sénégalais ou une Ivoirienne? Quelles étaient leurs attentes? Et comment les paysans ont-ils vécu ce grand bouleversement? Qu'est-ce qui a changé dans les rues de Kinshasa, de Dakar ou encore à Abidjan? Ce sont autant de questions que nous allons aborder tout au long de cette émission. Bonjour Odile Görg.
Bonjour.
Vous êtes professeur de l'histoire de l'Afrique contemporaine à l'université Paris 7 Denis Diderot et co-directrice de l'ouvrage Les indépendances en Afrique aux presses universitaires de Rennes. J'aimerais tout d'abord vous demander quelle image symbolique vous gardez des indépendances africaines.
J'allais citer justement Indépendance Tcha-Tcha, qui est devenu un espèce de lieu de mémoire des indépendances de l'Afrique en général.
Donc ce n'est pas une image, c'est un son.
C'est un son, pour sa vivacité, son entrain, la façon dont effectivement il interpelle la population en langue locale, en langue, comme ils disent.
Alors, même question pour vous, Roland Collin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de Sénégal, notre pirogue, au soleil de la liberté, aux éditions Présence africaine. Et vous êtes le grand témoin de notre émission pour avoir vécu à Dakar l'indépendance du Sénégal auprès de ses plus grandes figures, Léopold de Sédar Senghor et Mamadou Dia. Quelle image, quel son reste pour vous le symbole de cet événement historique?
Un moment très marquant, qui était à la fois image et son. En décembre 1959, la question de l'indépendance venait à l'ordre du jour officiellement au conseil exécutif de la communauté et De Gaulle était à Dakar. Nous étions dans l'Assemblée fédérale du Mali et on attendait la parole de De Gaulle. Et De Gaulle, à un moment donné, donc, a déclaré de façon extrêmement ferme qu'il reconnaissait le droit des pays africains et notamment de la Fédération du Mali à gérer ses propres affaires. Mais alors, il l'assortissait de deux remarques. La première consistait à dire « L'indépendance dans le monde où nous vivons ne veut pas dire grand-chose. On est toujours dépendant. Mais par contre, ce qui est important, c'est la souveraineté nationale. Et ce dont vous avez besoin, c'est de reconnaître que vous avez à construire votre souveraineté nationale et la France vous y aidera et le reconnaît. » Et la deuxième remarque, il ajoutait « Mais je reprendrai cette phrase que beaucoup d'entre vous connaissent, « Restons ensemble, il se fait tard. » Et j'ai vu à ce moment-là des larmes couler sur, disons, d'augustes interlocuteurs qui étaient dans la salle, pas Modibo Keïta, mais le président de l'Assemblée du Mali, Mahamana Hidara et d'autres. Il y avait vraiment une atmosphère d'émotion extrêmement forte.
Émotion que vous avez partagée?
Bien sûr. Et à ce moment-là, on a vu que cette libération devenait quelque chose de tangible. Parce qu'au moment du fameux référendum de 1958, c'était des projets, c'était des paroles. Et beaucoup faisaient le pari que la France n'irait pas jusqu'au bout. Et là, c'était le moment où la France est allée jusqu'au bout par la voix de De Gaulle. C'était un moment très très fort.
Quelles étaient, à ce moment-là, justement, les grandes attentes des populations, qui, pour beaucoup d'entre elles, d'ailleurs, Odile Görg, avaient manifesté leur désir d'indépendance?
Alors, on peut justement reprendre une des paroles d'indépendance tcha-tcha. Nous avons obtenu l'indépendance, nous voici enfin libres. C'est-à-dire que les attentes étaient très, très importantes, certainement démesurées par rapport à ce que les États indépendants allaient pouvoir offrir immédiatement aux populations. Alors, des attentes de liberté au sens politique, participation activement par le vote, mais aussi des attentes peut-être moins réalistes comme l'indépendance qui pourrait être, et ça a été dit au Mali, synonyme d'absence d'impôts, de libération de la capitation, même si elle avait changé de nom et d'allure. Hein. Donc des attentes très importantes, très différentes, bien sûr aussi selon les villes, les campagnes, les milieux sociaux.
Est-ce que l'éducation, l'accès à l'éducation était une attente du peuple, des peuples ?
Alors, il est toujours difficile de généraliser de cette manière, mais bien évidemment, l'idée de la formation, l'idée de la nécessité de la formation des cadres, l'idée des insuffisances notoires de la formation donnée dans le cadre colonial, alors insuffisance en termes quantitatifs, puisque on estime que un maximum de 30% des enfants étaient scolarisés et souvent s'arrêter aux primaires, donc c'est une poignée qui allait plus loin, mais aussi insuffisance en termes qualitatifs, c'est-à-dire ce qui était donné comme type d'enseignement.
Est-ce que la liberté, ça voulait dire se débarrasser de la domination des Blancs ?
Oui, de manière concrète aussi, même si cet élément pouvait encore avoir un aspect abstrait pour beaucoup de paysans qui ne voyaient pas concrètement le blanc passer, mais qui voyaient l'impôt, la conscription, le travail, même s'il était modifié depuis 1946.
Alors l'indépendance, est-ce que c'est la rupture avec le colonisateur ? C'est en tout cas la vision de Patrice Lumumba, telle qu'il l'expose dans son discours du 30 juin 1960, en présence du roi Baudouin, dont le Congo était la propriété personnelle.
Ensemble, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera enfin les fusillades, les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Cette indépendance du Congo, elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal. Ni les Congolais ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive les Congos indépendants et souverains.
Cette notion de liberté n'est pas forcément la même dans l'esprit d'Oufouette Boigny, Premier ministre de la Côte d'Ivoire, lorsqu'il annonce l'indépendance au peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes le 7 août 1960.
Peuple de mon pays, laisse éclater ta joie. Quel peuple plus que toi mérite cette joie? Tu as souffert plus que tout autre, mais ta souffrance n'a pas été vaine. Tu as lutté, mais pas inutilement, puisque la victoire, tu la connais aujourd'hui. Ce besoin de dignité que tu portais en toi, le voilà enfin satisfait. Tu es libre, et avec fierté, tu entres dans la grande famille des nations.
La voix d'Oufouette Boigny et la voix de Patrice Lumumba juste avant. Deux visions de ces indépendances, synonymes de liberté, mais peut-être deux libertés qui ne sont pas les mêmes selon que l'on soit Patrice Lumumba ou bien Oufouette Boigny. Odile Goerg.
Deux contextes coloniaux différents aussi, puisqu'effectivement le Congo belge est colonie belge depuis 1908 et a connu un processus d'indépendance ou de décolonisation extrêmement accéléré. On parle d'une indépendance bâclée parfois. Et entendre ces deux voix est absolument émouvant, je dirais surtout celle de Patrice Lumumba, puisqu'il a été assassiné le 17 janvier 1961, mais aussi parce qu'on a des témoignages iconographiques, hein. On a les images du début du discours, et on voit Patrice Lumumba gribouiller sur ses genoux, corriger le discours qu'il avait prévu, parce que son discours, qui est très clair, est une réponse au paternalisme et à la condescendance du discours du roi Baudouin, qui s'exprime avec une naïveté incroyable en parlant de l'indépendance comme étant l'aboutissement du travail de Léopold II. Enfin, et donc on voit Patrice Lumumba réadapter son discours et avoir un discours très clair qui se situe donc d'égal à égal, comme il le dit, entre l'ancienne métropole et son pays.
Donc c'est bien un discours de rupture.
Alors cela devient un discours de rupture et cela a été reproché à Patrice Lumumba sur le moment même, hein, puisque ça, pratiquement un incident diplomatique a été créé par ce discours.
Rupture avec l'ancienne puissance colonisatrice, ce qui n'est pas du tout la vision de Fouette-Boigny.
Oui, en même temps, Patrice Lumumba n'excluait pas du tout de continuer à coopérer avec la Belgique, mais d'égal à égal et parmi d'autres partenaires. Alors qu'effectivement, le discours de Fouette-Boigny, où on retrouve des termes similaires, hein, la question de la dignité, de la fierté, de la liberté, mais ça c'est beaucoup plus vaste comme concept, se retrouve également. Hein. Donc on a quelque chose de plus attendu d'un côté et des conditions dans lesquelles la décolonisation s'est opérée très différentes.
Alors, grâce à la présence de Roland Collin, c'est non seulement une histoire de l'indépendance du Sénégal qui peut nous être contée, mais c'est surtout tel que Roland Collin, vous l'avez vécu en ce qui concerne la vision de Senghor au moment où justement il va incarner cette indépendance du Sénégal. Comment pourrait-il se situer par rapport à Lumumba ou encore par rapport à Fouette-Boigny ?
Le débat sur la lutte pour l'indépendance au Sénégal a véritablement commencé en 1956 au moment de la loi cadre sur l'autonomie des pays d'outre-mer. Et là, on a vu, disons, différentes tendances s'exprimer au Sénégal. Et Senghor affirmait depuis déjà très longtemps, dès 1946, il avait écrit, il avait dit à la Chambre des députés que l'indépendance était un objectif pour lui. Mais c'était un objectif pour lui à très long terme. Et avec le souci de ménager des liens profonds avec la France et la culture française, ce qui n'interdisait pas la promotion des cultures nationales. Et il avait comme comparse Mamadou Dia, pour qui l'indépendance exigeait des ruptures beaucoup plus fortes, beaucoup plus nettes, donc davantage dans le sens de Lumumba. Mais Dia avait une culture économique très poussée, et il mesurait que la rupture ne se proclame pas, elle se vit, elle se construit. Et donc, Dia, à travers cet épisode, a affirmé que l'indépendance ne serait vraiment acquise que le jour où la transformation économique, et pas seulement institutionnelle, serait en marche, et que c'était l'objectif fondamental qu'il se donnait.
Vous écoutez RFI, la marche du monde.
Roland Collin, ce qui est frappant, c'est qu'au fond, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, ces nouvelles élites ne sont pas nouvelles, puisqu'elles sont engagées depuis extrêmement longtemps au sein de l'État colonial. Comment, du coup, les Sénégalais ou les Ivoiriens perçoivent-ils ces nouveaux leaders ? Ne sont-ils que les marionnettes de la France ?
Les ressortissants du Sénégal portaient le poids de ce qu'on appelle l'économie de traite. Depuis au moins 150 ans, depuis que l'arachide s'est installée comme la production dominante au Sénégal. Et cette production était sous le contrôle absolu des firmes internationales. Et donc, pour les paysans, se libérer du poids de cette production représentait un souhait, un objectif absolument majeur. Et l'indépendance, ça pouvait, ça devait être cela.
Mais justement, le fait que ces figures du pouvoir sont déjà en place, en quelque sorte, sous le colonisateur, comment c'était vécu par le peuple ?
Mais Mamadou Diop prônait cette libération de l'économique depuis longtemps. Senghor était beaucoup plus centré sur la culture et l'éducation. Bah, ils avaient trouvé le moyen à l'époque de conjuguer leur discours et donc leur présence simultanée, conjuguée, métisse, comme disait Senghor, avait une portée tout à fait considérable. Mais le réalisme commandait de faire passer cela dans les réalités. Les paysans n'avaient pas oublié le temps où ils étaient humiliés. Et bon, Mamadou Dia ou Senghor le rappelaient aussi à l'occasion. Mais pour les cadres en place, les intellectuels qui étaient en place, disons, l'indépendance voulait dire d'abord, il y a des hommes qui dirigent et qui ne sont pas de chez nous, et nous allons prendre leur place. Alors, il y a toute une problématique qui s'est mise en place, transformer la réalité, et peut-on la transformer sans se transformer soi-même, et sans se transformer par rapport à ceux qui occupaient les commandes avant. Et ça a été toute l'histoire, disons, de la lutte pour l'indépendance par la suite, qui n'est d'ailleurs pas tout à fait terminée dans les moments que nous vivons aujourd'hui.
Alors du coup, puisque nous avons, Odile Goerg, ouvert cette émission avec ce titre mythique hein, de Joseph Kabasele, Indépendance Tcha-Tcha, cette image de liesse ne fait-elle pas aussi partie du mythe des indépendances, cette liesse des populations?
Oui, effectivement. Au moment du cinquantenaire des indépendances, en 2010, plusieurs historiens se sont penchés rétrospectivement sur ce qu'avaient réellement été ces moments-là. Alors, on peut trouver, et c'est un fait avéré, hein, des manifestations de liesse et d'explosions de joie, notamment à minuit quand le drapeau est changé, ceci étant inspiré de l'Inde en 1947, on reprend des coutumes. Mais on peut trouver aussi d'autres éléments. Alors d'abord, dès qu'on s'éloigne de la capitale, les échos de ces célébrations s'atténuent progressivement. Parfois, comme dans le cas du Congo, les discours sont radiodiffusés. Mais dans d'autres cas, les paysans ou les gens qui habitent loin de la capitale sont très peu concernés, c'est-à-dire vivent ceci de loin, ne participent pas à ces célébrations. Après, on instaurera des célébrations tournantes, mais dans l'immédiat, c'est essentiellement dans la capitale que cela a été fait. Et puis, une autre façon d'y répondre, ça serait de prendre l'exemple du Cameroun, qui est un exemple très intéressant, puisque, comme l'a dit un historien camerounais, Daniel Abois, la célébration a été faite dans la joie et la peur, à la fois. Et le président Amadou Ahidjo lui-même, au moment de la célébration, a évoqué la célébration malgré le climat d'insécurité qui règne dans le pays, puisque le grand exclu, c'est l'UPC, voilà. l'Union des Populations du Cameroun
voilà. qui joue les troubles fêtes.
Alors les troubles fêtes, parce qu'effectivement, eux souhaitaient une indépendance depuis très longtemps, mais ce qu'ils appelaient une réelle indépendance, et non pas une continuité de pouvoir. Et ils vont effectivement jouer les troubles fêtes au sens idéologique, mais aussi strict, puisque à peu près 500 personnes de l'UPC vont venir à Douala et vont défiler très calmement avec un portrait de Roumène Oumniobé sur leur t-shirt. Mais au même moment, ou plutôt des jours avant, des jours après, il y a eu des attentats. Il y en aura de nouveau au mois de janvier. La police réprime et donc on est dans une ambiance qui est loin d'être celle de l'allégresse pour la majorité des populations. On a même le témoignage très précis de Germaine Ahidjo, la jeune épouse peu connue politiquement à l'époque de Amadou Ahidjo, qui entend des rumeurs d'attentats au moment du discours, puisque l'UPC avait dit qu'il s'opposerait à toute prononciation du terme d'indépendance qui serait comme ça une indépendance flouée. Et elle raconte qu'elle se précipite à la tribune où elle n'était pas censée aller pour mourir en même temps que son mari. Enfin, il n'y a pas eu d'attentat, mais disons, ça montre l'atmosphère.
About the death of Lumumba, man, what have you to say about the death of Lumumba? Well, we don't like it, that is what the people say. We don't want it, that is what the public say. But please, something must be done, the same could happen to anyone. Was the first as Prime Minister of Congoland, a brave and strong leader. He brought freedom to Congoland, but his political opponents strongly opposed his leadership. He was beaten up, arrested and sent to prison yard. So Lumumba, our Prime Minister, was humiliated before the world.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Vous êtes bien sur RFI, c'est la suite de votre premier épisode du Bal des Indépendances. Au son de nos archives sonores et musicales, nous revisitons le quotidien des indépendances tel que les Africaines et les Africains l'ont vécu avant, pendant et après 1960.
Je vous demande un oui massif, avait dit le général de Gaulle. Jamais consultation n'avait intéressé autant de territoires. De Tamanrasset à Dunkerque en passant par les territoires d'outre-mer et par Paris.
Le résultat est impressionnant. Non, 5 millions de voix. Oui, 31 millions.
Le Sénégal, toute la France d'outre-mer, sauf la Guinée, avait dit oui à la communauté proposée par la France.
Lors du référendum du 28 septembre 1958, le oui à la communauté française l'emporte massivement, tandis que la Guinée seule dit non. Mais on peut se demander dans quelle mesure les chiffres du scrutin correspondent aux aspirations réelles des populations. Pour la Guinée, la seule à dire non, le grand historien Yves Persson, alors administrateur de la circonscription de Béla, a écrit dans son rapport sur le référendum « On savait déjà avant le scrutin qu'il serait moralement impossible à un Africain d'approcher la main d'un bulletin oui avant de passer dans l'isoloir. » Odile Görg, est-ce que les populations ont vraiment eu le choix? Dans quelles circonstances ont-elles voté pour ce fameux référendum de 58?
De manière générale, je pense qu'il faut poser la question de la façon dont les informations ont circulé, dont les populations des villages les plus reculés ont pu être sensibilisées, et donc souligner le travail très important qui a été fait par les partis politiques pour motiver au vote et faire comprendre le sens de ce qui avait quand même une connotation assez abstraite. Donc l'importance localement, c'était la personnalité des politiciens, de leur capacité à convaincre les populations.
Alors pour le Sénégal, je vous laisse la parole, Roland Collin, puisque vous êtes notre grand témoin, que vous avez œuvré à ce passage à l'indépendance au Sénégal. Dans quelles conditions le oui sénégalais a-t-il été choisi? A-t-il été le mot d'ordre à destination des populations?
Le oui a triomphé, mais à partir d'un cheminement complexe. Peu de temps avant, le congrès du parti du regroupement africain, auquel était adhérent le parti sénégalais, avait pris position pour le non, et demandant donc l'indépendance immédiate. Mamadou Dia et Senghor l'avaient accepté, Dia de bon cœur, Senghor beaucoup moins, et une entrevue un peu du destin entre les deux hommes à la suite de ce congrès a abouti à l'aveu par Senghor qu'il avait pris des engagements auprès du gouvernement français.
Auprès de la France.
Auprès de la France. Dia se rend compte que ce serait une catastrophe que ces deux hommes se séparent d'un moment crucial et propose une tierce solution, disant « L'indépendance ne pourrait être effective qu'à la condition que nous menions de pair une transformation économique profonde. Donc, nous allons voter oui au référendum, mais en affirmant clairement que dans 4 ans, 5 ans au maximum, nous visons l'indépendance. » Et les choses se sont passées comme ça. Une partie des cadres intellectuels n'est pas entrée dans ce raisonnement et a fait dissidence à partir de ce moment-là. Mais ils étaient tout à fait minoritaires. Et donc le oui l'a emporté largement. Voilà.
Alors lorsque le référendum a lieu en 1958, cela fait plus d'un an que vous travaillez dans l'équipe de Mamadou Dia, le vice-président du Conseil du gouvernement du Sénégal. Je rappelle que Mamadou Dia, il est le cofondateur du Bloc démocratique sénégalais avec Senghor en 1948 et que c'est à la demande de Senghor, qui par ailleurs est votre ancien professeur, oui, Roland Collin, que vous avez travaillé avec Mamadou Dia. Alors parlons, si vous le voulez bien, de plusieurs chantiers. Peut-être un premier chantier que nos jeunes auditeurs ne connaissent pas, c'est le transfert de la capitale sénégalaise, oui, de Saint-Louis à Dakar. Alors pourquoi?
C'était tout à fait capital parce que dans les perspectives d'évolution qui s'annonçaient, une partie des protagonistes côté français imaginaient que la ville de Dakar, qui était le siège de la fédération, puisse être érigé en place de souveraineté indépendante du Sénégal, et donc qu'il fallait absolument que les Sénégalais puissent transporter la capitale à Dakar pour éviter qu'il y ait cette amputation. Et ça s'est fait sur un an, et donc Mamadou Dia m'avait chargé de mener cette opération à ses côtés, ce que j'ai fait.
Bah. Alors concrètement, puisqu'on s'intéresse au quotidien des populations, qu'est-ce que ça a changé pour les Sénégalais que la capitale ne soit plus Saint-Louis du Sénégal, mais Dakar ?
Ça a changé plusieurs choses. D'abord, ça a causé une grande frustration dans les milieux traditionnels saint-louisiens. Et à un moment donné, d'ailleurs, le ministre Jacquet, qui était ministre de la France d'Outre-mer, en visite au Sénégal, s'est rendu à Saint-Louis et a avivé l'opposition des saint-louisiens en critiquant le gouvernement du Sénégal sur cette décision. Mais sur le plan de l'efficacité, c'était tout à fait capital parce que ça permettait au gouvernement sénégalais et au parti sénégalais, au pouvoir sénégalais, de se situer sur un nœud fondamental des prises de décision qui allaient commander l'évolution de la suite et du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest. Voilà.
Alors Roland Collin, vous suivez Mamadou Dia lorsqu'il est nommé à la tête du Conseil des ministres en avril 1959. Et Mamadou Dia d'ailleurs va conserver cette fonction lorsque le Sénégal accède à l'indépendance en juin 1960.
Vous connaissez l'événement. Le Sénégal a été amené à prendre son indépendance, à quitter la Fédération du Mali. Nous ne renonçons pas à cet idéal-là, mais nous avons considéré que précisément pour réaliser ce regroupement, pour aller de l'avant, pour faire un jour l'unité africaine, il était indispensable que nous recouvrions d'abord notre liberté, notre indépendance.
Mamadou Dia forme alors avec Senghor un duo complémentaire dans la gestion du pays, au président des affaires internationales et à lui, Mamadou Dia, le développement économique. Et c'est à vous, Roland Collin, qu'il demande de mettre en œuvre la conquête des outils du développement. Ça consiste en quoi ?
Alors, pas seulement à moi. Il y avait aussi, en lien étroit avec lui, son commissaire au plan, qui était le grand écrivain Cheikh Hamidou Kane. Et ce qu'il s'agissait essentiellement, c'était de donner corps à la création d'une citoyenneté informée et responsable dans les masses sénégalaises, qui avait été tenue à l'écart d'une éducation haute qu'élémentaire. Donc Mamadou Dia a pris le choix de donner la priorité à l'éducation des adultes et a lancé à ce moment-là ce qu'on appelait l'animation rurale, qui était vraiment un outil d'éducation permanente, s'intégrant dans tous les villages, dans toutes les communautés, pour que les citoyens puissent prendre des décisions de façon responsable. Et cela répondait aussi à la volonté de Dia de créer un socialisme autogestionnaire. Et donc, ça a été vraiment le gros de l'affaire, le fondement essentiel de sa politique à partir de ce moment-là.
Mamadou Dia veut impliquer les paysans dans la construction nationale.
Je préparais déjà la création des communes rurales. Au fond, c'était le schéma chinois. Toute l'économie agricole était socialisée dans un sens autogestionnaire. Et je venais aussi de prendre un certain nombre de mesures qui déjà portaient atteinte, pas seulement au secteur capitaliste, mais même aux féodalités économiques locales que constituaient certaines confréries religieuses.
La voix de Mamadou Dia, c'est un extrait du film « Président Dia » de William Bai. Alors il s'agit d'appliquer le modèle socialiste chinois à la campagne sénégalaise, à la place du modèle colonial français, développé avec l'appui des marabouts mourides. Explication de texte, Roland Collin.
Je crois qu'il est inexact de penser que Mamadou Dia voulait appliquer le schéma chinois.
Il le cite.
Oui, il le cite, mais il se proposait essentiellement de faire naître, disons, un système autogestionnaire endogène, construit à partir de la culture et de l'histoire sénégalaise. Et à ce titre-là, donc, l'animation rurale visait cela. Et il avait en face de lui les milieux maraboutiques, les confréries, qui étaient extrêmement puissantes et qui avaient, de leur côté, depuis longtemps, pris le pouvoir dans des coopératives sous leur propre contrôle. Et bien créer des coopératives autogérées. Bah, bon. Donc les marabouts se sont mis à l'encontre. Et à côté de ça, il y avait aussi les firmes qui contrôlaient le circuit de l'arachide, les firmes étrangères et notamment françaises, et dont l'animateur principal était le président de la Chambre de commerce de Dakar, M. Galinka. Et M. Galinka, d'ailleurs je l'ai entendu prendre des positions tout à fait étranges, il disait « Nous sommes pour le socialisme africain, tout à fait, à la condition que le socialisme s'occupe des secteurs non rentables de l'économie et nous laisse les secteurs rentables. » Bien entendu, c'était tout à fait inacceptable. Donc c'était le deuxième terme de la coalition qui allait se liguer contre Mamadou Dia. Le troisième, c'était, disons, les politiciens de l'ancien régime qui s'étaient installés dans des situations notables, un peu comme dans les partis traditionnels. Et il faut dire d'ailleurs que la première incursion du socialisme au Sénégal, c'était la SFIO, et la SFIO traditionnelle, qui n'envisageait pas véritablement que l'on redonne la parole au peuple. Et donc Mamadou Dia a eu, à partir de ce moment-là, à lutter de façon extrêmement dure contre cette triple coalition-là. Senghor l'a soutenu pendant un temps, et puis après, bon, Senghor s'est laissé, persuadé que la France lâcherait le Sénégal si on allait trop loin dans cette voie-là, et il a lâché Mamadou Dia. Voilà.
Alors vous, en tout cas, Roland Collin, vous travaillez sur ce projet d'animation rurale que vous venez de définir. Vous êtes un cadre colonial d'origine, vous êtes un Français, vous êtes un ancien élève de Senghor et vous vous passionnez pour les langues, pour le poulard, pour le sérère, Senghor était sérère, pour le wolof. Comment vous vous appuyez justement sur votre connaissance des langues? Comment vous concevez la place des langues dans ce développement du Sénégal indépendant tel que le conçoit votre patron, Mamadou Dia?
Senghor a été mon premier maître d'initiation lorsque j'étais étudiant. Et j'avais d'ailleurs dans mes camarades de l'époque au Quartier Latin un personnage hors série qui s'appelait Joseph Kizerbo, qui est devenu le grand historien de l'Afrique. Et nous fraternisions tous les deux.
Burkinabé.
Voilà. Et Joseph me disait, c'est très important qu'un jeune comme toi, qui ait des idées, disons, orientées vers la liberté, entre dans l'administration d'outre-mer pour la faire bouger de l'intérieur. Et nous, de l'extérieur, nous donnerons la main. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai passé le concours et que je suis entré à l'école de la France d'outre-mer. Et là, je rencontre Senghor. Bon, Senghor me persuade que, véritablement, la culture africaine est tout à fait fondamentale. Passion pour les langues, je m'inscris à l'école des langues orientales en même temps. Et effectivement, mon premier séjour avant le Sénégal m'a conduit pendant 3 ans au Soudan français, où j'ai fait une immersion complète dans le monde paysan africain, parlant la langue. Je me suis absolument persuadé que, véritablement, il ne pouvait pas y avoir de citoyenneté qui ne soit totalement acculturée au terroir dont elle procédait.
Quelles sont les langues?
Le Bambara et le Dioula.
Le Bambara et le Dioula.
Oui, bon, j'ai aussi appris du Wolof. Et puis, Senghor nous enseignait le Peul, le Poulard, voilà. Mais c'était tout à fait passionnant et capital. Mais si Senghor a été mon premier maître d'initiation, mes maîtres d'initiation qui ont suivi ont été les grands sages maîtres d'initiation du pays Sénoufo au Soudan. Et je leur dois beaucoup. Et en particulier, disons, le sens de l'histoire. Et le plus renommé d'entre eux me disait toujours « N'oublie jamais qu'aujourd'hui est le fils d'hier et le père de demain. » Je crois que là, il y a dans cette formule quelque chose qui a une modernité très forte tout en s'enracinant profond dans l'histoire des peuples.
Et dans la marche du monde.
Écoutez, écoutez, fils d'Afrique. Écoutez, femme d'Afrique. Écoutez aussi, jeune d'Afrique, espoir de demain. Écoutez tous une page de la glorieuse histoire africaine. Il est des hommes qui, bien que physiquement absents, continuent et continueront à vivre éternellement dans le cœur de leurs semblables. Sont de ceux-là l'Almami Samori Touré, empereur du Wassoulou, le roi de l'abbé l'illustre Alpha Yaya Diallo et Morifindian Diabaté, symbole de l'amitié, dont les restes glorieux viennent de rejoindre la terre natale qu'ils ont aimée et défendue leur vie durant. Le colonialisme, pour justifier sa domination, les a dépeints sous les traits de rois sanguinaires et sauvages. Mais,
traversant la nuit des temps, leur histoire nous est parvenue dans toute sa gloire.
La Marche du Monde vous invite à partager les indépendances au quotidien avec nos invités Roland Collin et Odile Guergue. Après la question de la participation des paysans à la construction nationale dans les anciennes colonies françaises, la question de la place des artistes, elle est au centre du projet guinéen. Lorsqu'en 1958, la Guinée acquiert son indépendance, Sékou Touré veut que le pays retrouve une identité culturelle, forte et moderne. Les 33 préfectures doivent alors se munir par décret d'un ballet de danse traditionnel, d'un théâtre, d'un ensemble folklorique et d'un orchestre. C'est ainsi que l'orchestre Silla Jazz est né dans la ville de Beyla, proche de la Côte d'Ivoire. C'est un orchestre qui va devenir le légendaire Bembeya Jazz en empruntant le nom de la rivière locale en 1959. On ne s'en lasse pas.
L'hymne de l'empire du roi Solou proclame: si tu ne peux organiser, diriger et défendre le pays de tes pères, fais appel aux hommes plus valeureux. Si tu ne peux dire la vérité en tout lieu et en tout temps, fais appel aux hommes plus courageux. Si tu ne peux être impartial, cède le trône aux hommes justes. Si tu ne peux protéger le faible et braver l'ennemi, donne ton sabre de guerre aux femmes qui t'indiqueront le chemin de l'honneur. Si tu ne peux exprimer courageusement tes pensées, donne la parole au griot. Obama, le peuple te fait confiance. Il te fait confiance parce que tu incarnes ses vertus.
Odile Guergue, de quelle façon la culture participe-t-elle de cette affirmation du nouvel État guinéen ?
Alors, la culture est fondamentale dans le processus guinéen, mais on peut le retrouver dans d'autres pays, par exemple le Mali de Modibo Keïta et sous d'autres angles ailleurs. Sékou Touré a rapidement compris que pour unir ou rassembler la population, pour créer un sens de la nation, il pourrait compter sur les éléments culturels qu'il tire à la fois d'un héritage ancien de l'Empire du Mali, avec une controverse intéressante sur la capitale, le Niani, capitale supposée ou non, mais aussi plus récemment sur Samori Touré et sur l'image du grand résistant. Et comme vous venez de le dire, il va donc instaurer une réelle politique culturelle à l'échelle de tout le pays, en faisant compétir sur place puis dans la capitale des groupes qui, s'ils émergent, sont reconnus officiellement, deviennent des fonctionnaires et donc sont employés par l'État, payés, aidés pour produire leur musique, leur théâtre. Il est d'ailleurs assez abstrait, assez arbitraire de séparer ces deux activités, puisque, à l'instar des ballets africains qui avaient été fondés à Paris dans les années 50 par Fodéba Keïta, on mélange différents types d'expressions qui vont de pair, la danse, la musique, le théâtre. Et Fodéba Keïta, qui connaissait Sékou Touré depuis quelques années, avait adhéré au parti politique de Sékou Touré, va rentrer en Guinée au moment de l'indépendance et va devenir le responsable culturel et également avoir d'autres responsabilités. Alors cette politique culturelle est extrêmement dynamique, mais elle est également extrêmement autoritaire. On peut signaler par exemple que dès 1959, Fodéba Keïta, en tant que ministre de la Culture, interdit les radios privées. Donc la Voix de la Révolution est l'unique radio. Dès cette époque aussi, on supprime tous les orchestres qui existaient auparavant en disant que certains d'entre eux jouaient des valses ou de la musique européenne, alors qu'il faut puiser dans l'héritage ancien, mais également avec cette dimension de modernité. Donc on n'est pas dans un passéisme.
Alors, Roland Collin, de ce point de vue, quelle est la vision du président poète Léopold de Sédar Senghor? Est-ce qu'ils se sont proches, justement, d'un Sékou Touré?
Alors, Senghor est très, très sensible à ce qu'il appelle l'art nègre. Depuis, disons, ses plus jeunes années, où il était compagnon avec Césaire, Damas, et notamment Picasso. Et donc, il forme le projet de créer un festival mondial des arts nègres à Dakar, comme vraiment un événement majeur.
Mais avant de parler de ce festival, Roland Collin, qu'est-ce que Senghor, le président poète, oui, pense de ce volontarisme, de cet autoritarisme de Sékou Touré en matière de culture?
Disons, l'autoritarisme de Sékou Touré choque. D'autant plus que cet autoritarisme s'accompagne aussi d'une répression politique extrêmement féroce. Moi, j'ai bien connu Fodéba, son cousin Fadiala, qui a été rappelé en Guinée pour prendre la présidence de la Cour suprême et qui était avocat de fonction, a fini tragiquement au fameux camp Boiro, qui était un camp de la mort. Donc ça, les Sénégalais ne pouvaient absolument pas l'accepter. Mais sur le plan de la culture mandingue en particulier, bon, il y avait quand même une position positive.
La négritude est l'ensemble des valeurs de civilisation propres au monde noir. En tant que telle, la négritude est un message des Noirs à leurs frères des autres races. À l'heure où se font, étape par étape, la totalisation et la socialisation de la planète Terre, à l'heure où s'édifie la civilisation de l'universel, il est essentiel que les Nègres apportent leur pierre à l'édifice, que les Nègres profèrent leur message. La négritude est un fait africain. Et tant que l'Afrique restera africaine, tant que l'environnement africain informera l'homme, la négritude sera toujours une réalité. Mais la négritude s'enrichira dialectiquement en s'ouvrant aux influences des autres civilisations et en les influençant à son tour. Elle ne disparaîtra pas. Tout au contraire, elle s'affirmera en s'enrichissant.
La voix de Senghor en 1966, lors du premier Festival mondial des arts nègres, organisé à l'initiative de la revue Présence africaine et de la Société africaine de culture. Est-ce que c'est le grand projet de Senghor et est-ce que c'est ce qui définit le mieux la façon dont Senghor envisage la place de la culture dans la construction nationale du Sénégal indépendant?
Je crois que c'est une étape majeure dans sa politique culturelle et sa vision de la culture à l'intérieur de la construction de l'État et de la nation. Alors effectivement, ce n'est pas le tout du problème. Une grosse question aussi, c'est de savoir comment promouvoir la culture populaire à travers notamment les langues et traditions populaires. Et là, Senghor s'y intéresse, mais disons avec des timidités de linguistes très pointues. Alors que des pays sont allés beaucoup plus vite, comme notamment le Mali, sur l'introduction des langues africaines dans l'enseignement, Senghor exigeait des raffinements dans les transcriptions linguistiques, bon, qui ont fait que le Sénégal n'est pas allé en pointe, mais c'était en arrière-plan tout à fait compris comme un objectif essentiel.
Odile Guergue, il y a un retentissement de cet événement dakarois, souhaité, voulu par le président Senghor, dans les pays nouvellement indépendants?
Oui, bien évidemment, c'est un événement qui a fait date et qui résonne au-delà, mais c'est aussi un événement qui a suscité des contre-événements, puisqu'il y a le festival d'Alger en 1969, organisé notamment sur la base d'une critique de la notion même de négritude qui n'est pas acceptée par tout le monde. Cet essentialisme ne correspond pas à tout le monde.
Au fond, Odile Guergue, pour vous, est-ce que cette réappropriation, en tout cas cette volonté de se réapproprier sa culture africaine à travers les langues, à travers l'africanisation des cadres, à travers un projet de développement rural, ce sont les différents thèmes que nous avons abordés aujourd'hui. Est-ce que ça, ce sont des preuves concrètes des indépendances au quotidien pour les populations africaines dans cette décennie 60?
Oui, je pense que c'est une manifestation, enfin une concrétisation évidente des changements, le rapport à la langue certainement, avec des choix très différents selon les pays et le contexte linguistique des divers pays, mais en tout cas la possibilité de choisir sa langue dans les langues officielles, c'est certainement une concrétisation fondamentale.
Avec la langue nationale qui est le français dans la plupart des anciennes colonies, et avec la question de la nationalité. Roland Collin.
La question de la nationalité exige effectivement, disons, l'adhésion à un modèle. Et ce modèle que l'indépendance a mis en jeu, ce pouvait être soit le modèle de l'extérieur, et c'est ce qui était proposé au départ, parce que vous deviendrez indépendant quand vous aurez accepté et assumé le modèle du colonisateur. Et l'autre option, c'était de dire l'indépendance exige la création d'un modèle endogène qui procède de l'histoire du peuple. Et c'est ce modèle-là, en tout cas au Sénégal, qui était vraiment au centre de l'action de Mamadou Dia, et avec comme outil principal l'éducation populaire pour qu'effectivement on puisse faire le pont entre la culture et l'économie et le développement. Et ce message de Mamadou Dia a eu de grands retentissements dans d'autres pays, puisque l'animation rurale à la sénégalaise a pris en ricochet une réalité dans des pays comme le Niger, comme Madagascar, comme le Tchad, et aussi la Guinée-Bissau au moment de l'indépendance. J'ai suivi, moi, personnellement, ce ricochet là, des éducations populaires et des animations participatives. Et je crois que c'est un fait tout à fait important et majeur. Voilà.
Une expérience importante et majeure qui a eu lieu dans différents pays, Roland Collin. Et en ce qui concerne Mamadou Dia, ses fonctions ont été stoppées net en 62. C'est l'histoire, évidemment, oui, du soi-disant coup d'État. En tout cas, tragique, c'est pour cette oui, raison-là que Senghor a fait incarcérer Mamadou Dia en prison pendant 12 ans, mais c'est une autre histoire que j'espère nous aurons l'occasion de raconter ensemble dans la Marche du Monde. Merci Roland Collin.
Merci à vous.
Merci Odile Gergue. Toutes vos merci références beaucoup bibliographiques à tous les deux sont sur la page de la Marche du Monde sur RFI.fr. Les indépendances au quotidien, c'était l'épisode numéro 1 de notre série Le bal des indépendances, une émission réalisée par Cécile Pompeani et Sophie Janin. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine danse. Ce sera dimanche prochain pour la décolonisation selon Frantz Fanon. N'hésitez pas à réagir sur nos pages Facebook et Twitter. Podcaster cette émission, c'est la vôtre. Table ronde, table ronde.